Merci beaucoup, Valère. On aurait presque dit du théâtre No, vers la fin. Je vous présente Thierry Marais, qui intervient à présent et qui est professeur à l'université Gakushuin à Tokyo, qui a publié plusieurs romans chez Gallimard et qui a traduit en japonais L'Origine rouge, qui a écrit également sur Pascal Quignard, qui a, dans le colloque de 2010, écrit sur la cuisine du latin des anges, le théâtre de Valère Novarina et les langues anciennes, et qui va nous faire une communication sur le théâtre, les influences japonaises, peut-être, dans le théâtre de Valère Novarina.
Merci. Merci pour tout. Donc, mon exposé s'appelle Valère Novarina avec ou sans Japon. Le sujet dont je vais traiter ne s'imposait pas. À 2500 lieues des aveux de rue, de piogre et du monde latin, le Japon n'entre pas d'emblée dans les références qu'une forme d'apprivoisement critique de la nouveauté tente d'assigner à l'œuvre de Valère Novarina. Peu de catholicisme en ces contrées lointaines, une langue sans pronoms ni temps verbaux, et si peu de sujets que rien. Nulle part, en tout cas, cette consécration de l'humain qui fascine et façonne l'Occident. D'un peuple de fourmis, comme disait la première ministre de la République française, on n'attend pas qu'il s'acharne à sortir de l'homme. Si je parle ici du Japon, c'est qu'on me l'a demandé, non seulement parce qu'il arrive aux écrivains d'y partir en voyage, mais parce qu'à d'autres époques, ce pays a tenu une place singulière dans l'imaginaire théâtral que s'est forgé l'Occident. Je m'attacherai donc à déterminer en quoi, dans les textes de Valère Novarina, les considérations sur le Japon renvoie à une expérience authentique de spectateur, néanmoins impossible à détacher complètement des modèles qui, depuis la fin du XIXe siècle, ont présidé à la réception des dramaturgies japonaises en France, en particulier à propos du théâtre No. Ma première partie s'appelle « Éventaire d'éventail ». Dans l'univers poétique de Valère Novarina, le Japon tient un rang discret. Son nom circule au gré des listes. Parmi les 175 langues énumérées dans « Observer les logaèdres », le japonais figure à côté du catalan, du campanien, juste avant le yiddish et l'ingouche. Parfois même, il est cité dans le texte. Au paragraphe 460 de « Pendant la matière », le mot « ningen » concourt à récuser les dénominations de l'homme, imparfaites en cela que plusieurs, à la 14e place d'une ribambelle terminée par le nom d'Adam. Dans la scène, l'énoncé pousse aux dimensions d'une phrase entière. « Ningen o sa gashite iru » déclare, en trop d'autres langues, un émule de Diogène agitant sa lanterne en plein jour à la recherche d'un homme. Mais la loufoquerie zazique de cette transcription révèle à quel point le japonais reste une langue inconnue, plus inconnue et moins maternelle que le hongrois. On pourrait être tenté d'établir un parallèle entre certains événements scéniques et des procédés qui leur ressemblent dans la dramaturgie japonaise. Des récits sont chantés, des poupées manipulées, des masques portés sur le plateau, comme autant de figures tutélaires. Mais ces formes mêmes sont ambiguës. Depuis plus d'un siècle qu'histoire et géographie nourrissent la rêverie des réformateurs du théâtre, les généalogies ont fini par se brouiller. Pourquoi l'usage du masque renverrait-il au No plutôt qu'à la Commedia dell'arte, aux funérailles dans la Rome antique, à Mardi Gras? J'avoue pour ma part avoir peine à lire l'œuvre novarinienne à la lanterne japonaise. Dans le drame de la vie, le défilé des personnages entrant l'un après l'autre en scène et sortant aussitôt m'évoque davantage l'esthétique de la parade ou du cirque que le resserrement du No, les déploiements du kabuki. Les longues tirades, les listes vertigineuses du discours aux animaux ou de la chair de l'homme, ou bien ce que vous venez d'entendre il y a quelques minutes, s'inscrivent plus aisément dans la tradition occidentale de la Bible à Rabelais, Lautréamont ou Joyce, qu'entre les 31 syllabes du waka. Si la liturgie parodique de pièces comme la scène ou le jardin de reconnaissance peut être rapprochée du caractère rituel que tant d'observateurs prêtent aux représentations du No, d'autres modèles s'imposent avec plus d'évidence, sans qu'il faille courir au bout du monde, chercher ce que la messe catholique ne demande qu'à partager. Les marionnettes offrent une piste séduisante en ce qu'elles rassemblent deux univers difficiles à concilier. Pour une part, la fantaisie des spectacles populaires, Master Punch ou Guignol, cette veine carnavalesque qu'après Bakhtin, on associe depuis la fin des années 60 à toute référence rabelaisienne. Mais aussi le réalisme délicat, la suspension poétique ou la furie bravache du Bunraku. Valère Novarina lui-même en proclame les vertus. Le plus beau de nos mythes, dit-il, n'est ni Faust ni Don Juan, mais le mythe de Pinocchio. Nous sommes des Pinocchio à l'envers. Nous sommes en bois et nous avons à nous défaire de nous, à nous défaire de l'homme et à redevenir masque. C'est donc dans Devant la parole. Dans les représentations qu'il m'a été donné de voir, la marionnette novarinienne évoquait plus immédiatement l'enjouement des kermesses que l'impondérabilité pathétique des poupées japonaises. Des convergences formelles pourraient néanmoins être invoquées. Les marionnettes japonaises sont à tige. Des trois manipulateurs qui les tiennent en appui dans l'air, le maître seul est sans cagoule, et son visage paraît flotter au-dessus du petit personnage en bois qui s'agite à hauteur de son ventre. Si mes souvenirs sont exacts, on pourra vérifier ce soir, dans la représentation du vrai sang à l'Odéon en 2010, deux acteurs prêtaient leur tête vivante à une poupée dont les membres de chiffon s'attachaient directement à la maison miniature tenant lieu de Castelet. Chaque partie du corps apparaissait ainsi à une échelle différente, visage d'homme, torse dessiné, jambes pendant hors du cadre, comme des jouets d'enfant. Géométrie paradoxale où l'acteur et la marionnette, dédoublés et se redoublant, multiplient leur puissance d'évocation par trois. Citation. Ce qui est beau dans la marionnette, c'est la sortie d'homme. Mais ça, l'acteur bien dédoublé, comme il y a le clavier bien tempéré, peut le faire aussi. L'acteur, au sommet de son art, devient une marionnette. Il est à la fois le tigre et le dompteur, c'est ce qu'on disait de Mounet Sully, à la fois l'oiseau posé sur la vague, la houle du texte et la mer qui respire. C'est donc dans Lumière du corps. Un grand acteur vaut donc une petite marionnette. Cette tête de bois s'obstine à proclamer qu'elle n'éprouve rien, ne pense pas, et que tout ce qui lui passe par le corps appartient à l'émotion. Citation, entre des marionnettes vivantes dont le centre est creusé. Au cœur de l'homme, personne. L'émotion, c'est le mouvement. Donc c'est toujours dans Devant la parole. Je parlerai plus loin des descriptions que les voyageurs occidentaux ont proposées du théâtre japonais, notamment du Bunraku et du No. Mais certaines convergences sautent aux yeux. Citation, le verbe est acteur, le verbe agit, écrire opère le réel, il n'y a pas de travail d'écriture ou de parole, innocent, inoffensif, inagissant, aucun bavardage dans le monde, jamais, le langage est partout redoutablement actif. Comment ne pas lire entre ces lignes un souvenir des mots fameux de Claudel sur le Bunraku ? Ce n'est pas un acteur qui parle, c'est une parole qui agit. C'est au No, pourtant, qu'est réservée la meilleure part. Essentiellement regroupée dans un chapitre de Lumière du corps intitulé « Lire à 300 yeux », notamment au fragment 166, 167, 168, et surtout dans « Devant la parole », où elles forment un ensemble isolé du chapitre « Demeure fragile ». Page sans titre explicite, mais que Louis de Funès, en personne, invite à nommer l'île du No, car il s'agit bien d'une île, puisqu'on y arrive par un pont. Louis de Funès occupe une place assez considérable dans l'œuvre de Valère Novarina, pour qu'on s'étonne à peine de voir ce comédien, plus volontiers associé au style outrancier du boulevard, introduire une forme dramatique à l'immémoriale réputation d'austérité, de hiératisme et de lenteur. Tout provoquant qu'il soit, le rapprochement n'est pas unique. Dans l'île du No, le personnage du Shite, l'acteur danseur, en japonais celui qui fait, celui qui arrive pour Claudel, est mis en relation avec le souvenir du clown Grock. C'est d'abord affaire de silhouette. Le corps des personnes est ici, citation, le corps des personnes est ici couvert de grandes étoffes, d'immenses tissus. Les soies vont à la personne comme son trop grand manteau au clown Grock. Le mot personne est toujours en italique. Par un contraste que soulignait déjà Jean-Louis Barrault, la massivité du costume transmute la lenteur en vitesse, le poids en légèreté. Agrafée, appalant, plus lourde que les scarabées, à la fois volante et rampant, rien ne va plus vite et n'est plus lent que les personnes du No, chargées d'espace, de membrane, de peau. Fin de citation. Sous les oripeaux de la métaphore opère une description si fidèle qu'il faut sans doute avoir vu du nœud pour en mesurer la richesse suggestive. Les personnes en scène, écrit Novarina, n'oublient jamais qu'elles marchent sur la portée du sol, inversant les dimensions du corps, portant des manches avec les pieds. Horizontales et verticales ne sont pas seules affectées par une telle inversion, ni les cinq lignes de la portée, uniquement convoquées pour l'amour de la musique. Il s'agit d'exposer le mouvement propre du pas, ne perdant contact avec le plancher qu'à la fin de la glissade. Proche, en effet, de la marche d'un funambule, car opérant également sur un fil, en l'occurrence la ligne imaginaire qui va d'une branche de pin à une poutre en bois clair. Le masque du nom, empêchant d'y rien voir, oblige l'acteur à prendre pour repère les piliers de soutènement qui bordent le plateau. Haut et bas se renversent, assurant la promiscuité des contraires. Le grotesque s'unit au sublime, la naissance à la mort à la résurrection, l'auguste est ange et nourrisson. Citation. Le corps des personnes du nœud est langé trop large comme celui du clown, avec des ailes inutiles amoncelées sur lui, des bandelettes amoncelées sur lui, comme Grock qui ressuscite en sautant. Dans cette ombre tutélaire avance une colonne de comédiens. Car il n'y a rien qui évoque plus le nœud chez nous, ici, en Occident, que la vélocipédie empêtrée, le poids agile de Sugus, Charlie Rivel, Nicouline, Rudy Liatta et Grock. Au nœud comme au cirque, le costume flotte, comme si le corps était devant nous, ballotté par son ombre. Si paradoxal et profondément novarinien qu'apparaisse un tel syncrétisme, ce rapprochement du théâtre traditionnel japonais avec la tradition du cirque ou du music-hall n'est pas tout à fait isolé. Avant même d'aborder l'histoire du regard que l'Occident et la France ont porté sur le théâtre du Japon, écoutons l'un des inventeurs du théâtre moderne, Vsevolod Meyerhold, analysant pour ses élèves les similitudes entre le jeu des acteurs japonais et celui de Charlie Chaplin. Ce qu'il y a d'essentiel dans la technique de ces acteurs, c'est qu'ils abordent chaque fait avec une naïveté absolue, que la situation soit très dramatique, tragique ou comique. Avant tout, l'acteur prend une attitude, une expression que puisse comprendre le spectateur le plus naïf, le moins versé dans ces sortes de finesses. C'est cette technique-là que Chaplin possède. Il rejettera ce qui n'est pas accessible à tous. Le théâtre de Kabuki procède de la même manière, mais il y ajoute des moments de rite, de rituels scéniques, quand les acteurs doivent présenter des masques, des personnages. Ils entrent en scène, se présentent comme les participants du spectacle donné. Certes, Meyerhold ne parle pas du nœud, mais du kabuki, et de comportements artistiques dont il a mesuré l'universalité à l'occasion de la tournée en Russie d'Ichikawa Sadanji en 1928. Il est cependant difficile de rester insensible à la persistance de certaines thématiques appareillant rite et naïveté dans une cérémonieuse mise en abîme théâtral. On peut d'ailleurs s'étonner que, dans l'éventail des formes proposées par le théâtre japonais, Valère Novarina ait privilégié le nœud. Quand, à bien des égards, par l'importance accordée à l'acteur dans les turbulences d'un corps qui s'exhibe et s'éloigne, ainsi que dans son cousinage avec l'atmosphère des baraques foraines, le kabuki paraît proche de son art. Simple question de goût, peut-être, ou hasard de l'histoire personnelle? Mais ce privilège accordé au nœud pourrait recevoir une autre explication, sur laquelle je vais maintenant revenir dans ma deuxième partie qui s'appelle « Un nœud pour un autre ». Jean-Jacques Tchudin a consacré à la réception du théâtre japonais en Occident, notamment en France, un ouvrage synthétique éclairant qui s'appelle « L'éblouissement d'un regard ». Depuis 1867 et l'arrivée des canonnières du Commodore Perry, la connaissance du Japon s'est enrichie de deux manières et selon des rythmes distincts. Tandis que les voyageurs, diplomates et savants rendaient compte par écrit de leurs observations sur place, l'Occident s'ouvrait à des artistes japonais, battleurs, acrobates et danseuses, en quête d'un nouveau public qu'ils accoutumaient aux formes populaires de la culture d'Edo. Au grand âme de leur gouvernement, furieux de voir le pays représenté par de tels saltimbanques. Ce qu'un spectateur occidental apprenait de la civilisation japonaise à travers les livres différait sensiblement de l'expérience qui lui était offerte au Japanese Village de Londres ou dans les pavillons d'une exposition universelle. Les écrits et traductions de Noël Péry permirent aux lecteurs curieux de s'initier au théâtre No, moins de 10 ans après que Sadayako n'eut triomphé sur les scènes d'Amérique et d'Europe, et 5 ans après la tournée d'une autre danseuse, Hanako, qui devait poser pour Rodin. L'une et l'autre évoluaient dans des spectacles de kabuki, brutalement charcutés pour épargner au public occidental les dialogues incompréhensibles et la musique qui casse les oreilles. Par un double paradoxe, l'Occident dut sa première expérience du théâtre japonais à Kawakami Otojiro, donc le mari de Sadayako, acteur qui voulait en réformer la tradition, et le public occidental s'enthousiasma pour un art réservé aux interprètes masculins grâce au talent de 2 actrices. Dans l'interminable histoire des malentendus culturels, cette contradiction porte son poids de conséquences. Quand les livres vantaient le raffinement d'un art ancestral et masqué, rassemblant danse et chant à l'égal de la tragédie grecque, en scène se bousculaient les cruautés du mélodrame, avec force roulement d'yeux et des poses dignes du cinéma muet, d'ailleurs contemporain. Le public informé, prêtant à ce qu'il voyait les caractères de ce qu'il avait lu, louait l'austérité rituelle, la profondeur métaphysique d'un spectacle issu de la foire. Comme l'écrit Jean-Jacques Tudine, en mettant en avant ces tableaux dramatiques hautement expressifs, cette mode favorise la gloire internationale des grandes tragédiennes qui dominent le courant du XIXe siècle. Helen Terry, Elena Modjeska, Sarah Bernhardt, La Duse, Réjeanne et bien d'autres ne triomphent pas seulement sur les scènes de leur propre pays, mais partout en Occident, devant des assistances ne comprenant que peu ou pas leur grande tirade. Cette tendance est partagée par les fondatrices de la danse moderne, Loy Fuller, Cléone Mérode, Isadora Duncan ou Ruth Saint-Denis, qui toutes pratiquent un art vaguement inspiré de la Grèce antique et de l'Orient au sens large. Fin de citation. Sadayako, puis Hanako, idoles barbares, prennent ainsi rang parmi les prêtresses de l'art moderne. Comment résister à des références dont l'éloignement garantit l'universalité? Les rénovateurs du théâtre se trompaient de leur plein gré. Charles Dullin l'avoue sans malice à un interlocuteur japonais qui se plaignait de l'inauthenticité des productions présentées en France. « Nous avons reçu une révélation incomparable par le spectacle de cette troupe. Que ce soit du vrai kabuki ou non, ce n'est pas notre problème. Simplement, nous sommes admiratifs devant ce jeu superbe et puissant. » C'est donc une image hybride du théâtre japonais qui se forme à la fin du XIXe siècle, accommodant les formes issues du kabuki au discours tenu sur le no. Le quiproquo n'est sans doute pas universel. Ce sont de véritables pièces de no qu'essaient de monter Jacques Copeau et Suzanne Bing dans les années 30. Claudel a vécu au Japon et l'Oiseau noir dans le soleil levant consigne son expérience de spectateur. Pourtant, le mythe perdure et la perception du voyageur peut s'en trouver gauchie. Tel Cocteau, en 1936, déclarant d'un célèbre acteur de kabuki qu'il n'est, citation, « pas seulement un mime mais un prêtre ». Ce spectacle est liturgique, non point dans le sens de nos mystères, mais dans le sens religieux. Ce n'est pas d'un théâtre religieux dont je parle, mais de la religion du théâtre. Kikugoro et son orchestre célèbrent l'office. Si l'apparition du metteur en scène coïncide avec la naissance de l'avant-garde théâtrale en France autour d'Antoine et de Lugnepo, c'est en littérature que s'inaugure le mouvement moderniste. Le symbolisme s'est caractérisé par une activité dramaturgique intense. La gloire d'Ibsen et celle de Maeterlinck se répandirent dans toute l'Europe. Mallarmé s'épuise à rêver son théâtre, alors que le premier Claudel est contemporain de Jarry, précisément à l'époque où le public français découvre le Japon. Chez Maeterlinck ou Claudel, le dualisme constitutif de la pensée symboliste est mis au service d'une spiritualité chrétienne, plus précisément catholique. Le théâtre donne à voir l'invisible, au moins furtivement. Comme le suggère Camille Mauclair, l'actrice japonaise, en l'occurrence il s'agit de Sadayako, transporte littéralement son public dans l'au-delà. Citation. Cette immobilité brusque, donnée comme paroxysme à une pièce précipitée et fébrile où l'esthétique européenne attendrait un surcroît de drame, crée une émotion renversée et poignante qui saisit même le spectateur à la façon du spasme cardiaque qui tue la courtisane aux cheveux hérissés. Quick le public. Voici l'autre monde, originel et funèbre à la fois. Surgissant devant Claudel, au cours d'une scène de No, D'un geste de son éventail magique, il a balayé le présent comme une vapeur, et du lent vent de cette aile mystérieuse, il a ordonné à ce qui n'était plus d'émerger autour de lui. Par le prestige d'une parole qui s'efface à mesure qu'une autre lui succède, le jardin de dessous le monde peu à peu s'est dessiné dans la cendre sonore. Détachement, évanescence, abolition et vieille dentelle, ce travail du négatif, hors contexte hegélien, compose le mystère d'une ineffabilité sans arrêt proclamée. Le théâtre japonais que décrit Claudel se rapproche de celui qu'il imagine à son propre usage et que plusieurs années d'Orient vont enrichir de formes inédites. Mais le langage dans lequel il s'exprime est, pour l'essentiel, redevable à Mallarmé dans des fragments descriptifs qui sont autant de poèmes en prose. L'emprise du symbolisme sur la perception des réalités japonaises ne s'est pas achevée dans les premières décennies du XXe siècle, ni limitée à la communauté catholique. Dans les années 60 et 70, nombre d'intellectuels français s'adonnèrent au culte de la pensée mallarméenne sous le pontificat de Maurice Blanchot. Roland Barthes publie « L'Empire des signes » en 1970. Cet ouvrage est le premier de son auteur à revendiquer la forme fragmentaire. La description analytique des réalités japonaises y procède sous l'angle éminemment symboliste d'une circulation ininterrompue de signes à peu près vide de contenu. Les remarques sur le théâtre japonais pourraient avec profit être rapprochées de celles de Claudel, tant les convergences dépassent les différents idéologiques. L'ancien brechtien Barthes éprouve pourtant moins d'affinité pour le no que pour cet art de la distance qu'est la manipulation des poupées, à laquelle il tient toutefois à dénier toute dimension métaphysique. Dans le Bunraku, écrit-il, la marionnette n'est tenue par aucun fil. Plus de fil, partant, plus de métaphore, plus de destin, la marionnette ne singeant plus la créature, l'homme n'est plus une marionnette entre les mains de la divinité, le dedans ne commande plus le dehors. À quoi Jean-Louis Barrault, claudélien de profession, répond 2 ans plus tard, c'est le plus simplement du monde du théâtre métaphysique, c'est la poésie rendue palpable par la présence concrète du naturel et du surnaturel. La marionnette c'est l'homme, le manipulateur c'est Dieu, les assistants ce sont les messagers du destin. Sur la définition, du moins, tout le monde s'entend. Le Japon est un lieu vide, le lieu même du vide, le royaume des apparences. Moins un pays mystérieux qu'un pays mystifiant, pour reprendre les mots d'un écrivain voyageur, suisse par-dessus le marché, qu'on pense rarement à ranger sous les barrières de Blanchot ou de Mallarmé. Dans un ouvrage de 1970 intitulé « Japon », réédité en 1986 sous le titre de « Chronique japonaise », Nicolas Bouvier exprime en pointillé ce qu'il répétera tout au long du recueil posthume intitulé justement « Le vide et le plein ». De ce vide essentiel, le théâtre japonais témoigne à sa façon. Certains des premiers spectateurs occidentaux lui en faisaient grief. Mais quel est donc l'état d'âme de Sadayako ? Se demandait un critique du London Times, cité par Jean-Jacques Tchudine. Rien ne passe dans ses yeux qui étincellent. Formulons l'hypothèse d'un esprit très enfantin derrière ce masque blanc. Le regard symboliste transforme cette absence en ravissement, ombre qu'on ressuscite, frontière indécise et retournement. Par un étonnant paradoxe, écrit Claudel, ce n'est plus le sentiment qui est à l'intérieur de l'acteur, c'est l'acteur qui se met à l'intérieur du sentiment. Suspension du temps et de la vie. Citation, on dirait que chaque geste a surmonté avec le poids et le repli de l'immense vêtement et la mort, et qu'il est la lente copie dans l'éternité d'une passion défunte. Ça, c'est Claudel. Mais Barthes, opposant le maquillage du kabuki à celui du clown, accumule les indices de la disparition. Le blanc du visage semble avoir pour fonction non de dénaturer la carnation, mais seulement d'effacer la trace antérieure des traits, d'amener la figure à l'étendue vide d'une étoffe mate. Sous les yeux d'Occident, le théâtre du Japon devient un rite funèbre. Ceci touche, citation de Barthes, ceci touche à une certaine façon de prendre la mort. Imaginez, fabriquer un visage, non pas impassible ou insensible, ce qui a encore un sens, mais comme sorti de l'eau, lavé de sens. C'est une manière de répondre à la mort. Fin de citation. Une telle unanimité contamine jusqu'aux esprits les plus rétifs. Les textes réunis en 1933 dans un barbare en Asie témoignent d'une hostilité au Japon qu'aucun amoureux de ce pays ne pardonne à Henri Michaud. À l'occasion d'une réédition du livre à la fin des années 60, l'auteur y introduisit néanmoins plusieurs amendements, maquillant son antipathie d'autrefois en reconnaissance tardive du néant. Citation : « Ce qui me glaçait tellement au théâtre japonais, c'était encore ce vide, qu'on aime pour finir, et qui fait mal d'abord, qui est autoritaire, et les personnages immobiles, fixés aux deux extrémités de la scène, gueulant et se déchargeant alternativement, avec une tension proprement effroyable, sorte de bouteille de laide vivante. » Ce qui m'amène à ma troisième partie qui s'appelle « En plein dans le vide ». Revenons au fragment sur le nom recueilli en 2010 dans « Devant la parole », on sera donc peu surpris d'y trouver des motifs souvent rencontrés, aussi bien dans d'autres textes théoriques de Valère Novarina que dans la littérature antérieurement accumulée par les voyageurs et les amateurs de théâtre. La continuité s'affiche d'emblée. Ici, ce ne sont pas des personnages qui entrent ni des figures. Rien ne leur convient mieux que le nom de personne. Donc c'est une citation de Devant la parole. Le mouvement de la phrase semble calqué sur la fameuse définition de Claudel. Dans la tragédie, c'est quelque chose qui arrive. Dans le no, c'est quelqu'un qui arrive. Chacun des énoncés se découpe en deux propositions, dont la deuxième infléchit la première par l'entremise d'un pronom indéfini. Quelque chose s'oppose à quelqu'un, comme personnage à personne. Les italiques soulignant l'ambiguïté grammaticale et sémantique. Ce qui est là n'y est qu'en tant qu'on peut dire qu'il n'y est pas. Personne. Au gré d'un très vieux calembour, le signe se mue en cénotaphe. Citation : les deux acteurs portent le masque comme un écriteau où il est écrit intérieur vide. On pense au chapitre de l'Empire des signes, analysant le protocole du Bunraku, dont le titre est justement Les trois écritures. Mais ce prolongement vaut profanation. Le bois du masque et des têtes sculptées ravale le visage à la fonction de pancarte. Le vide est en effet une des notions majeures organisant la description. De même que pour Lao Tzu, la roue est formée de ce qu'il n'y a pas entre ses rayons, ainsi procède la théâtralité du no. Citation : tout est travaillé ici, non seulement avec les choses, mais aussi avec tout le vide autour. Car ce vide est bien entouré, proliférant sous la double forme d'une figure de style et d'une tournure de grammaire. La rhétorique de l'oxymore affecte aux énoncés une forme qui heurte la logique et s'arrange mal des représentations mentales. Les frontières s'avèrent incertaines, la réalité contre-intuitive, on parle de linéarité zigzagante du temps, ou de monde sous le monde, la rivière sans la rivière, le pain sous le pain, l'homme sans l'homme. Une paronomase suffit à transporter un vocable hors de sa classe de mots. Tout a lieu dans un temps que l'on peut par instant aussi entendre à l'envers, si l'on est attentif. Le jeu de mots du coup de dé, rien n'aura eu lieu que le lieu, conduit à une série d'équivoques sur les sonorités du mot temps. Le temps qui s'entend à l'envers n'est-il pas temps sans temps qui s'entend en effet aux deux sens d'ouïr et de comprendre et se perpétue dans les allistérations d'instant et d'attentif. L'équivoque joue aussi sur l'étymologie. C'est parce qu'il est tenu d'une main et capturé que le temps est poignant, sur la dérivation. Capturé par nous, c'est captif. La plus abstraite des catégories transcendantales, selon Kant, celle qu'on arrive à définir seulement lorsqu'on n'y réfléchit pas, dixit saint Augustin, le temps dont Proust cherchait la majuscule, se trouve ainsi pris en main, modelé d'analogue en synonyme. Le temps est pétri, palpablement travaillé, saisi par le toucher de l'homme. La nouvelle formule de l'impossible est de faire comme s'il n'existait pas. Citation : le grand écartèlement, le semi, la sporée, le dispersement jeté ici devant nos yeux aboutit à un seul point dans l'espace tendu. Pour ce grand nettoyage par le vide, la grammaire aussi dispose d'un instrument privilégié, la négation, cette voix négative dont Valère Novarina confesse, à l'instar de Mallarmé, qu'elle fut sa béatrice. Cette voix négative emprunte le modèle dialectique. Non pas ceci, mais cela. Non des figures, mais des personnes. Ni seulement les choses, mais le vide autour. L'obscurité même, à son tour niée, se métamorphose en lumière. Citation : le mystère dans le nom ne vient pas d'un voile, d'un flou, d'une brumosité, d'un drapage poétique, mais de l'espace partout, extrêmement éclairé et découpé d'éclairs contredits. Du contact entre paradoxe et négation jaillit quelque chose au lieu de rien. Deux personnages s'avancent dans les chemins de contradiction. L'un à l'autre apparaît, il emplit l'espace de choses pas là. Finalement, la négation se dévorant elle-même au prix d'une parodie, moyennement parménidienne et rien moins qu'hegelienne, aboutit au contraire d'une synthèse. Citation : le vide lui-même est en chaos discontinu. Ça n'est absolument pas un élément, ni un non-élément, ni un non-lieu ou un non-être, ni quoi que ce soit d'appréhendable par la négative. Rien de préhensible, même immatériel, surtout pas immatériel. C'est des blocs irréguliers, non pensés. Fin de citation. La section se clôt sur un fragment qui récapitule les propriétés du vide en guirlande d'homophonie polyglotte, conjuguant l'adverbe anglo-italo-espagnol « no » avec le théâtre « no », dont le nom même s'entend comme un « non ». Le « no » porte le vide partout, de façon que la matière invisible du temps en soit matériellement creusée et que la courbe de l'espace réponde. Elle répond « oui ». Le « no » est la joie du mouvement, c'est la vue du temps avec lui qui nous emporte. C'est le temps lui-même qui est attendu et qui est ici accueilli. L'espace est appelé par son nom. Sans doute, en ces pages, la couleur malarméenne et ses chloroses blanchotiques apparaissent-elles chinées de paradoxes taoïstes, voire d'une touche de zen californien. La description n'en repose pas moins sur une indéniable expérience. Quiconque a vu des spectacles de nos reconnaîtra, sous la parade des métaphores, dans le dérapage métonymique, la précision du regard et la pertinence des allusions. Autant que ceux de Claudel, quoique d'une autre manière, les textes de Novarina sur le no s'attachent à la mémoire, devenant indissociables du spectacle réellement perçu. Il n'est donc pas illégitime de s'interroger sur leur part de réalité. Entre civilisations lointaines, la méprise est coutumière. Le bouddhisme japonais, religion d'ascèse et de miséricorde, en quête d'accomplissement, sinon de salut, prône des valeurs assez ressemblantes à celles du christianisme pour que les missionnaires eux-mêmes y fussent trompés, enchantés de rencontrer un peuple en quelque sorte évangélisé d'avance, illusion bientôt dissipée. Le zen, dont l'essor au Japon est presque contemporain de celui du no, prête aisément à ce genre de confusion. Les doctrines du vide et de la dépossession, qu'il emprunte en partie au taoïsme, entrent en résonance avec certaines injonctions familières au catholicisme oriental plus qu'à l'Église romaine. On en a eu un aperçu ce matin et ça va continuer après. Tous les amateurs de cinéma savent, par exemple, que la tombe d'Ozu Yasujiro est frappée du caractère mu, qui signifie néant. Dans les années à cheveux longs, je me rappelle la vogue dont jouissaient les charades métaphysiques de l'enseignement zen. Quel est le bruit, par exemple, d'une seule main qui claque ? Puisque Valère Novarina cite plusieurs fois le nom de Zéami, dont René Siffert a traduit les arrêtés au début des années 60, il est permis de s'interroger sur l'influence qu'une éventuelle lecture de la tradition secrète du no pourrait avoir eue sur la perception des spectacles, ou, plus naïvement encore, d'y chercher la trace des phénomènes repérés par l'observateur. Les textes de Zéami sont un manuel pratique, adressé aux acteurs et portant sur des points techniques vocales ou corporelles. La figure du vide ne s'y rencontre qu'une fois, dans une citation dont la glose atténue l'effet paradoxal. Il est dit dans le Shingyo « La matière est identique au vide, le vide est identique à la matière. En toute voie, en tout art, on rencontre ces deux éléments, matière et vide. » C'est vrai. Le Shingyo étant le traité du vide, on n'est pas surpris d'y croiser cette notion. Pour le reste, les généralités sont rares. Rien sur la portée du théâtre ou son utilité. Les considérations les plus abstraites touchent à l'excellence du jeu d'acteur. Fleur, vers laquelle chacun doit tendre, mais qu'aucun exercice ne suffit à garantir. Zéami ne craint pas le paradoxe, écrivant dans son livre 3. Méditez bien ceci, c'est en vous disant que l'habile est l'exemple du malhabile et le malhabile l'exemple de l'habile qu'il vous faut déployer vos efforts. Les préceptes du Fushikaden s'en tiennent, dans l'ensemble, à d'austères injonctions, à l'effort, ou à des conseils de bon sens sur la mesure à conserver. Sur deux points, cependant, la pensée de Zéami croise le texte de Novarina et déborde la compréhension du no. Il s'agit premièrement du corps. Qu'une réalité si fondamentale soit abordée dans un traité sur l'art du comédien, quoi de plus naturel ? Les remarques de Zéami sur le souffle n'ont d'abord rien pour intriguer. Citation : c'est parce que l'on entonne, après avoir recueilli le ton dans le souffle, que je pose la règle, primo le ton, secondo le souffle, tertio la voix. Le lecteur s'aperçoit ensuite qu'on lui propose une définition du corps considérablement plus extensive que celle qu'il attendait, puisqu'elle englobe la totalité de l'événement théâtral. L'acteur n'a plus qu'un corps de théâtre. ou plutôt le théâtre, est devenu son corps même. Citation. Or donc, s'il me faut localiser dans la pratique de notre art les éléments peau, chair et os, j'appellerai os l'existence d'un fond inné et la manifestation de la puissance inspirée qui donne spontanément naissance à l'habileté. J'appellerai chair l'apparition du style achevé, qui puise sa force dans l'étude de la danse et du chant. J'appellerai peau une interprétation qui développant encore ces éléments-là, atteint au sommet de l'aisance et de la beauté. Si nous rapportons ces trois éléments aux trois facultés de la perception, à savoir à la vue, à l'ouïe, à l'esprit, la vue correspond à la peau, l'ouïe à la chair et l'esprit à l'os. Dans le champ pris isolément, ces trois éléments se retrouveraient également. Fin de citation. Ce corps hors de lui-même, cet acteur hors de l'homme, qu'il contient d'autant qu'il est par lui contenu, semble anticiper certains énoncés d'apparence aporétique dont est jalonnée l'œuvre de Valère Novarina. Ainsi, dans le théâtre des paroles, citation, c'est des paroles que nous prononçons, de la manière dont elles nous traversent, que tout dépend. Nous sommes dans les mots. Les mots sont à la fois la forêt où nous sommes perdus, notre errance, et la manière que nous avons d'en sortir. Notre parole nous perd et nous guide. Fin de citation. Une autre confluence remarquable concerne le statut du texte, langage actif influant directement sur le monde au moyen d'une gymnastique de la redondance, exactement inverse à l'économie absentée du signe. Citation, Euzermi, il faut disposer son esprit conformément à la lettre du texte. Quand il est question de voir, on regarde. Quand il est dit avancer ou retirer, on avance ou on retire la main. Si c'est quelque chose comme entendre, on tend l'oreille. De telle sorte que si l'on a employé son corps d'une façon en tout point conforme au texte, l'action se trouve spontanément réalisée. Fin de citation de Zéami. Notre langage animal mime une venue, écrit Valère Novarina, qui parle aussi plusieurs fois de rébus. Le corps sert de truchement mimétique à des énoncés qu'il redouble dans l'ordre du visible. Acteur, lisait-on déjà dans Pour Louis de Funès, montre-moi la matière physique comme elle est, sortie d'un mot. Montre le corps sortir par la parole. Montre la parole monter de lui, être comme son alcool qui s'en va. Toutes les paroles montées qui montent, comme une fumée qui sort des hommes. Fin de citation. L'action devient langage, réalisé dans le mouvement du corps. Une forme de dépouillement s'énonce, un retrait de soi-même, pas même explicite. La petite mort, doublant la grande, réitère la nécessité d'un art sans effet d'art, d'autres diraient l'inutilité du théâtre au théâtre. Citation, celui qui, sans le moindre artifice, sans aucune recherche de style, éveillerait chez le spectateur une émotion au-delà de toute émotion, qui ferait ainsi proclamer au loin le renom de sa maison, on pourrait dire qu'il est passé maître dans le style merveilleux du divertissement musical. Fin de citation de Zerbi. Dans l'œuvre de Valère Novarina, le Japon tient donc une place limitée, mais stratégique. La réduction des différentes formes du théâtre japonais au modèle fantasmé du no s'ancre pour une part dans l'esthétique symboliste, attachée à concilier l'aspiration au renouvellement spirituel avec les apories du signe. En s'inscrivant dans cette lignée, Valère Novarina hérite d'une certaine perception du Japon qu'il modifie au gré de sa propre évolution de dramaturge et d'écrivain, renversant la théologie négative du langage en expressivité matérielle. Citation, ce qui est très beau dans la représentation de No, à son point d'incandescence, c'est qu'une forme de transmutation a lieu soudain. Dans une chose restée au sol ou dans un objet emporté dont on se souvient, il y a autant d'émotions que dans l'énonciation et la délivrance rythmée d'une phrase. Devant nous, l'émotion et le mouvement du langage vont au cœur de la matière. Fin de citation, fin de l'exposé. Merci bien.